Christian Gaulier, vous avez dans le rapport fait une contribution justement sur ces investisseurs à long terme, mais vous allez nous dire plutôt la gestion des risques.
Alors moi, pour compléter et rebondir sur ce que Alain Quinet vient de dire, effectivement, je pense que la problématique du long terme est avant tout une question éthique, puisqu'elle concerne des générations différentes d'individus. Et donc, automatiquement, on se pose la question de savoir, est-ce que nous faisons suffisamment d'efforts pour les générations futures ? Est-ce que nous sommes court-termistes ou est-ce que nous sommes long-termistes ? Donc, la question, est-ce qu'on est court-termiste ou pas ? Après tout, on investit dans ITER, on va bientôt faire un grand emprunt pour investir dans nos universités et la recherche. Ça va demander un effort considérable aux citoyens aujourd'hui pour un bénéfice à la fois incertain et lointain. On investit dans Lyon-Turin, enfin, on fait des tas de choses pour le très long terme. Quand on dit les marchés sont court-termistes, je ne suis pas toujours très au clair pour savoir ce que ça veut dire. Il y a une deuxième dimension sur laquelle je voudrais intervenir durant le quart d'heure qui m'est dévolu, c'est le lien qui existe entre la durée, l'horizon temporel d'un investisseur et sa tolérance au risque. Je pense qu'il y a un fil conducteur qui était clair dans les deux interventions précédentes, qui est plus on est long terme, plus on est capable de prendre des risques à notre charge. Donc il y a une relation positive entre la durée, le long termisme d'un investisseur et sa capacité à porter des risques et donc à réduire le coût du capital pour les entreprises innovatrices qui investissent dans des projets qui sont incertains mais à fort potentiel de création de valeur. Jérôme, la suivante. Peut-être que je peux le prendre avec ceci. Ok, donc je vais intervenir séquentiellement sur ces deux éléments. Donc première partie de mon intervention, donc quelle est la relation entre durée, horizon temporel de l'investisseur et tolérance face au risque non, ça marche vraiment pas. Ok, écoute, je suis désolé. Hein. qu'est-ce qui justifierait qu'un investisseur de long terme, comme la Caisse des dépôts et consignations, comme le fonds de réserve des retraites, comme les fonds souverains, aurait plus de tolérance face au risque et donc contribuerait à créer de la valeur en permettant aux entreprises qui ont des projets d'investissement risqué mais à fort potentiel, d'obtenir un capital à un coût relativement raisonnable et donc d'être capable de faire ces investissements. Donc c'est une vraie question, c'est une question très concrète. Hein. Quand on entend dans la presse le fonds de réserve des retraites, on a investi massivement en actions, autour de 60% notre argent, nos citoyens, pour financer nos retraites à l'avenir, sont investis majoritairement en actions. Est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'une mauvaise chose? Le fonds de réserve des retraites nous dit oui, c'est une bonne chose, parce que nous avons un horizon long. Quelle est la justification économique qui permet de tenir un tel raisonnement? La problématique de la relation entre l'horizon temporel et la tolérance au risque est une vieille question en économie, est une vieille question en finance. Les premiers modèles de finance dynamique proposés dans les années 60 par des gens comme Paul Samuelson ou Robert Merton ont déjà largement contribué à cette réflexion. Il y a deux concepts clés à retenir dans ces raisonnements théorique, un raisonnement de diversification temporelle, et je vais y revenir dans mon transparent suivant, et une problématique de prévisibilité et de caractère de corrélation sérielle des rendements financiers qui fait qu'il y a une structure par terme du risque et peut-être que les risques long terme sont relativement plus faibles que les risques court terme parce qu'il y aura une corrélation négative. Pour résumer les résultats de ces différentes controverses scientifiques, on peut dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des arguments forts pour dire que l'investisseur long terme apporte plus de tolérance au risque à la société par leur capacité à diversifier les risques dans le temps. Néanmoins, quand on regarde, merci Jérôme, tu es parfait, quand on regarde ce que les individus eux-mêmes font quand ils gèrent leurs risques, quand ils gèrent leur portefeuille, parce que nous avons nous aussi des horizons temporels qui évoluent dans le temps. Quand on est jeune, on a 50 années d'investissement devant soi ou 60 années. Quand on a 65 ans, on a beaucoup moins de temps devant soi. Et donc, on peut regarder par un argument de préférence révélée comment comment les individus eux-mêmes, comment leur attitude face au risque évolue dans le temps, et on peut le regarder en particulier en regardant leur allocation de portefeuille entre actifs sans risque et actifs risqués. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce transparent, mais globalement, on ne voit quand même pas grand-chose. On ne voit pas vraiment que les individus plus jeunes, ce qui est une horizon temporelle plus important, investissent relativement plus au risque. Non, mais ça pourrait être expliqué par un certain nombre d'autres problématiques, comme par exemple l'incapacité des jeunes ménages à emprunter pour investir sur les marchés. L'argument standard utilisé pour justifier que les individus qui ont un horizon plus long, ou les individus ou les institutions investisseurs de long terme devraient investir plus dans le risque, c'est l'argument selon lequel, et je me lis, je peux récupérer mes pertes présentes par des gains futurs. Hein, parce que moi je suis jeune, si j'ai un crash financier, j'investis en action, il y a un crash financier demain, c'est pas grave parce que j'aurai 40 ans de gains futurs de mon portefeuille pour compenser ses pertes initiales. C'est évidemment pas un bon argument parce qu'il pourrait y avoir différents crashs successifs et depuis 1985, on a quand même eu un certain nombre de crashs financiers qui fait que le fait d'avoir un crash cette année ne donne pas d'indication sur le fait que le rendement du marché action sera plus important pour compenser ses pertes initiales dans le temps. Et donc l'argument n'est pas très fort, et cette idée a été notamment mise en valeur par Paul Samuelson lui-même dans un article de 1963 qui s'appelait The Fallacy of the Law of Large Numbers, l'interprétation fallacieuse de la loi des grands nombres, qui est en fait, les gens pensent trop souvent que c'est en additionnant des risques les uns aux autres qu'on diversifie chacun de ces risques. Pas du tout, c'est pas en prenant des risques l'année prochaine que vous parvenez à diversifier le risque que vous allez prendre cette année. Hein, diversifier un risque, c'est au lieu de prendre 100% d'un risque, c'est prendre 1% de 100% risque indépendant. Hein, c'est pas additionné, ça c'est subdivisé. Hein, donc cette mauvaise interprétation de la loi des grands nombres, vous la trouvez dans de multiples endroits, vous le trouvez dans cette notion de mauvaise interprétation de la diversification temporelle, mais vous la voyez aussi dans des choses comme les gros assureurs sont mieux capables de diversifier les risques, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, l'idée est assez simple. Hein, l'idée c'est que dans les modèles les plus simples d'optimisation de portefeuille, la part que vous devez investir dans les actifs risqués est proportionnelle au rapport de l'espérance de rendement sur la variance du rendement. Et quand vous regardez, quand vous avez ça en tête et que vous mettez les choses en perspective intertemporelle, eh bien, vous devez regarder si vous avez plutôt 40 ans d'investissement devant vous parce que vous avez 25 ans plutôt qu'un an parce que vous avez 64 ans. Comment évalue ce rapport espérance de rendement agrégé de votre portefeuille sur l'ensemble de la durée résiduelle de détention sur variance du rendement, donc risque, mesure du risque résiduel sur l'ensemble de la durée de détention. Ben, la variance, si vous faites l'hypothèse qu'il n'y a pas de corrélation dans les rendements de portefeuille, la variance va varier linéairement, va croître linéairement avec la durée de détention résiduelle, et l'espérance va elle aussi croître linéairement, et donc le rapport va rester constant. Et donc c'est pour ça que dans les modèles standards les plus simples, Merton, Samuelson, Mossin, de la fin des années 60, le résultat qu'Alain Kinner rappelait brièvement en pointillé, c'est la stratégie optimale de portefeuille d'un investisseur de long terme, ce n'est rien d'autre qu'une succession myope de stratégies court terme. Il faut faire chaque année comme si vous étiez devant votre dernière année d'investissement, et ça détermine votre stratégie dynamique optimale sur l'ensemble de votre cycle de vie. Et donc la myopie serait optimal dans ce raisonnement-là. Ce n'est valable que si vous avez un objectif précis de long terme. Vous voulez, à partir de 25 ans, capitaliser pour un objectif de consommation et de liquidation d'un portefeuille à 65 ans avec aucune capacité de flexibilité entre 25 ans et 65 ans. Donc tout le risque il va se reporter sur le capital que vous avez accumulé à l'horizon de 65 ans. Dans la réalité, on ne fonctionne pas comme ça, Dieu soit loué. Il y a un maître mot dans la notion de gestion des risques, c'est la notion de flexibilité. Hein. Vous gérez bien les risques parce que vous avez de la flexibilité. Et quand vous intégrez cette dimension dimension-là dans l'analyse, ça change assez radicalement. Parce que quand vous avez 65 ans devant vous et que vous êtes confronté à un crash financier la première année de votre investissement, ce n'est pas très grave, parce que vous pouvez vous dire, ben, je vais simplement compenser, au lieu de transférer toute cette perte sur 40 ans plus tard, à 65 ans, je vais simplement dire, je vais augmenter tout à fait à la marge mon taux de contribution dans mon fonds de retraite, hein, dans ma richesse financière que je prévois pour ma retraite. Je veux simplement compenser cette perte immédiate par une toute petite modification de mon flux de consommation sur l'ensemble de mon cycle de vie, de manière à compenser cette perte initiale. Quelque chose qu'un individu qui est à la veille de sa retraite n'est pas capable de faire. Et donc un individu qui est jeune et qui en même temps est capable de lisser les risques financiers dans le temps à travers cette stratégie de compensation par le taux de contribution annuel, eh bien lui il peut avoir beaucoup plus de tolérance face au risque par rapport à un individu qui est beaucoup plus proche de l'âge de la retraite, qui lui va devoir, s'il a mis un investissement massif en action et qu'il est confronté à un crash, eh bien il va devoir massivement réduire sa consommation sur le reste de son cycle de vie pour compenser ce crash-là, quelque chose qu'un individu beaucoup plus jeune peut faire de façon beaucoup plus souple. Et donc ça implique beaucoup plus de tolérance face au risque pour les individus qui sont plus jeunes. Et c'est par exemple ce que vous voyez dans le PERP, hein, le plan d'épargne retraite populaire. Hein, l'État a bien obligé, et je trouve que l'obligation est un peu excessive, enfin soit, l'idée c'est l'obligation légale dans le PERP, c'est au fur et à mesure que vous rapprochez de l'âge de la retraite, eh bien, on vous force dans votre plan d'épargne retraite populaire à réduire la part détenue en action. Voilà. En ce qui concerne les... sur ce transparent, vous avez simplement une représentation. J'ai fait une optimisation dynamique de portefeuille, et vous avez là, mais c'est pas très lisible, simplement la part détenue, la part de votre capital financier investi en actions. Entre 25 ans et 65 ans, vous voyez que bon, globalement, en suivant la stratégie optimale, vous êtes 100%, essentiellement 100% en action au début de votre carrière de contributeur à votre fonds. Et puis, à partir de 45 ans, vous commencez à réduire, vous tombez en dessous de 100% pour tomber autour de 35% au moment où vous arrivez à 65 ans. Il y a une autre dimension. Oui, tu peux passer au transparent suivant. Il y a néanmoins un problème, parce que même si vous prenez un horizon temporel de 40 ans, qui est un horizon, disons, standard pour un individu qui commence à penser à sa retraite quand il commence à travailler, on peut même peut-être penser à 18 ans maintenant, parce qu'on a vu nos étudiants, 16 ans, nos lycéens s'intéresser au problème de financement des retraites, donc je devrais peut-être réviser mon horizon temporel classique. Et 40 ans, néanmoins, ce n'est pas suffisant pour diversifier efficacement les risques dans le temps. Et vous avez ici une représentation, alors c'est à nouveau pas très lisible, pour différents marchés, pour différents pays, vous avez le destin financier de générations d'investisseurs. Hein, et des gens qui ont commencé à investir. Alors j'ai pris les durées de détention de 20 ans, hein, j'ai regardé le surrendement des gens qui ont investi en actions plutôt qu'en obligations pendant 20 ans. Donc la toute première, c'est par exemple sur ce transparent, c'est tout à fait à la gauche. En 1920, j'ai une génération qui a commencé à investir le 1er janvier 1900 et qui a investi jusqu'au 31-1920 en actions. J'ai regardé quel a été le surrendement qu'ils ont obtenu par rapport à ce qu'ils auraient fait pendant ces mêmes 20 années s'ils avaient investi en obligations. Et j'ai calculé un rendement annualisé. Donc par exemple, pour la France, c'est la courbe bleue. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais sur la courbe, vous voyez que les gens qui investissent entre 1900 et 1920 en actions par rapport à l'obligation ont obtenu un surrendement à peu près de 5% par an. Ce qui est énorme, hein, parce que vous devez multiplier, enfin, vous devez capitaliser sur 20 ans ce surrendement de 5%. Mais voyez, et c'est ça que je veux vous transmettre comme information sur ce transparent, voyez que les destins ont été très différents de génération en génération. Vous avez des générations qui ont massivement perdu et qui auraient mieux fait d'investir en obligations par rapport en actions avec un surrendement négatif. Et bien, par contre, vous avez eu des gens qui sont arrivés, qui ont liquidé leur portefeuille dans les années 60-70, qui ont eu, eux, des surperformances, qui ont été profits absolument considérables, jusqu'à 20-25% par an, ce qui est tout à fait énorme. Et donc, vous voyez que vous avez, même si vous êtes capable de diversifier dans le temps sur votre propre horizon temporel de 40 ans, il y a quand même un risque résiduel très important. Vous avez des générations, et aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent à la retraite, qui ont vécu le crash de 1987, qui ont vécu le crash de 2001, qui ont vécu le crash de 2008-2009, et qui aujourd'hui ont des rendements de leur portefeuille, s'ils l'ont capitalisé en actions, beaucoup plus faibles que s'ils investissent en actions. Et donc il y a là un potentiel important de solidarité entre générations. Hein, j'explique, c'est un argument qui a été présenté pour la première fois par Peter Diamond en 1977, hein, Peter Diamond qui a obtenu le prix Nobel cette année en économie, qui explique qu'en fait les marchés sont incomplets. Les générations actuelles voudraient partager les risques des marchés financiers avec les générations futures en disant, bah, écoutez, si moi je vais épargner pendant toute ma vie, si par malchance le rendement de mon portefeuille est faible, je vous demanderai de venir à mon aide et contribuer pour compléter ma retraite. Par contre, moi, en échange, je m'engage à ce que si les rendements de mon portefeuille pendant les 40 prochaines années sont importants, et alors j'accepterai de faire une contribution à un fonds qui va vous permettre à vous d'obtenir un complément de retraite sur le reste pour votre carrière à vous. En fait, je suis en train de vous décrire un fonds de pension collectif, hein, où on va, dans une solidarité intergénérationnelle, améliorer le bien-être de toutes les générations parce qu'on va être capable de mieux partager ces risques, quelque chose que les marchés sont incapables de faire. Donc là, il y a un rôle important de l'intermédiation financière, et j'ai publié un article en 2007 dans le Journal of Public Economics qui essaye, dans une modélisation, optimisation numérique, d'estimer le bénéfice, le surplus social généré par la création d'un tel système de fonds collectifs. Et ça tourne autour, et c'est pas négligeable, autour de 1%, d'un surrendement de 1% par an, si vous parvenez à mettre en place un fonds collectif comme celui-là, plutôt que d'imposer à chacun d'épargner de son côté et d'affronter les aléas sans être capable de partager les risques entre générations. Lui, tu peux passer, ça, j'ai pas le temps. Il y a une autre dimension sur laquelle je ne suis pas intervenu jusqu'à maintenant, c'est la dimension de... Ici, jusqu'à maintenant, j'ai fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas réellement de corrélation temporelle dans les rendements. C'est-à-dire que le fait que les marchés financiers aient été très mauvais depuis 2 ans ne vous donne pas d'informations sur la rentabilité des marchés financiers dans les 10 prochaines années. Or, ce qu'on en observe, il y a certains débats entre les économètres et la finance actuellement, mais enfin il y a quand même un certain consensus qui émerge sur l'idée que les rendements sont partiellement prévisibles, en particulier le fameux price earning ratio, hein, le rapport entre le prix de l'action et son dividende récent, vous donne une information sur s'il est faible, que les rendements seront plutôt élevés à l'avenir, et s'il est élevé, qu'ils seront plutôt faibles à l'avenir. Et ça nous donne des indications sur lesquelles il y a une certaine corrélation négative dans les rendements. Hein. Et ce qu'on observe, c'est si les rendements sont élevés pendant une période de 10 ans, et bien en moyenne, les rendements seront plutôt plus faibles que la moyenne historique sur la décennie suivante. Et donc cette corrélation négative fait que les investisseurs de long terme, eux, ils vont pouvoir bénéficier de cette corrélation négative en organisant cette diversification temporelle bénéfique grâce à la gestion et l'utilisation de cette corrélation négative, alors que les investisseurs de long terme, de court terme, excusez-moi, eux qui ont un plus court terme, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser cette corrélation parce qu'ils ne seront plus là quand les rendements se réaliseront, eh bien eux, ils devront prendre moins de risques. Et là aussi, il y a une relation, il y a un élément à prendre en compte dans la relation qui existe entre la durée de détention d'actifs et l'horizon temporel. J'ai pas le temps de passer les deux, tu peux passer les deux prochains transparents, les trois prochains en fait, si vous me donnez encore 5 minutes. 3 minutes, ok. Il y a eu une incertitude ces dernières 24 heures, parce qu'on m'a d'abord dit un quart d'heure, puis on m'a dit une demi-heure ce matin, et là, avec le temps passant, je vois que, bon, c'est pas grave. Donc, deuxième question, très rapidement, là, c'est mon dada de recherche actuellement. J'écris un bouquin qui va paraître chez Princeton University Press l'année prochaine sur la question, notre société est-elle court-termiste ? Excusez-moi, tu peux passer au transparent suivant. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Jérôme a dit sur la problématique consommation épargne. Le court terme, c'est de savoir est-ce qu'on fait suffisamment de sacrifices pour les générations futures. D'accord ? C'est essentiellement le sacrifice, c'est sacrifice épargné. D'accord ? Une partie de votre revenu, vous n'allez pas le consommer en partant en vacances, vous allez plutôt l'épargner pour investir pour le long terme, acheter une maison pour vos enfants ou pour vous-même. L'avenir, c'est donc toute la problématique du sacrifice, du sacrifice pour les générations futures, se résume au niveau macroéconomique dans un et au niveau microéconomique aussi, hein, dans un arbitrage entre consommation et épargne, et en fait au niveau des prix sur la question du niveau des taux d'intérêt et des taux d'actualisation utilisés par les entreprises pour évaluer les projets d'investissement auxquels ils font face. Quand les taux d'intérêt sont élevés, le coût du capital est élevé, et donc les entreprises sont obligées d'actualiser les cash flows futurs de leurs projets d'investissement à un taux élevé qui fait qu'il est peu probable que ces projets d'investissement soient réalisés parce qu'ils auraient une valeur actualisée nette positive. Et donc, c'est au niveau de l'économie dans sa globalité, c'est le niveau de ce taux d'intérêt et donc du taux d'actualisation qui va déterminer le niveau de sacrifice réalisé par les individus. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, moi, j'ai intérêt à consommer peu, à épargner beaucoup parce que ça me rapportera de l'argent à l'avenir, et donc, etc., etc. Donc on peut dérouler tout l'aspect du macro au micro, cette relation qui existe entre taux d'intérêt, coût du capital, taux d'actualisation et compromis, arbitrage entre consommation et épargne. Donc, transparent suivant, s'il te plaît. Juste pour mettre les choses en perspective, je pense que c'est important de se rappeler, quand on réfléchit à la problématique, est-ce qu'on est court-termiste ? Est-ce que notre société est court-termiste ? C'est vrai qu'il faut se rappeler que nous avons en même temps des tas de questions, nous avons des crises, nous avons à gérer, nous ne faisons pas des tas de choses au niveau de la société qui rapporteraient beaucoup en termes de bien-être supplémentaire, pratiquement immédiatement, et que nous ne faisons pas. Nous luttons mal contre la malaria, un certain nombre de maladies, pour un coût très très faible, on pourrait améliorer l'alimentation des jeunes enfants en Afrique, et ça aurait un effet énorme sur leur santé et sur la croissance économique de ces pays-là. On le fait mal, on le fait peu. Donc quand on dit l'urgence du long terme, il y a aussi l'urgence du court terme. Et donc il y a cette problématique du sacrifice du court terme et de l'immédiat du court terme et du long terme, hein, c'est vraiment une question éthique qui est à nouveau, qui se concentre au niveau économique sur le taux d'actualisation. Et voyez que ici, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de John Lomborg, qui a produit dans l'année 2005-2006 un rapport dans lequel il a fait un certain nombre de prix Nobel d'économie, de grandes stars américaines, qui ont fait plancher sur l'évaluation économique de différents projets d'investissement. Imaginez que vous ayez 100 milliards d'euros sur la table, ou un revenu annuel de 100 milliards d'euros qui serait géré par l'ONU. Dans quel programme d'amélioration de l'humanité, du bien-être de l'humanité, il faudrait les investir en priorité. Et vous voyez que sur ce tableau-là, les priorités qui sont mises en avant, c'est du court terme. C'est il faut lutter contre la malaria, il faut lutter contre la malnutrition, et il ne faut pas lutter en priorité pour le changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on utilise un taux d'actualisation qui est élevé, et quand on utilise un taux d'actualisation qui est élevé, on ne valorise pas beaucoup les bénéfices de long terme de construction d'éoliennes, de solaire, etc., etc. Tu peux passer, je vais m'arrêter sur ce dernier transparent pour rassurer mon président de séance. La question reste, hein, la question finale reste, est de savoir quel est le taux d'actualisation socialement désirable, hein, quel est le taux d'intérêt le meilleur pour l'humanité, hein. Et de la réponse à cette question-là découlera la réponse à quel est le niveau de sacrifice pour les générations futures. Alors, sous le voile d'ignorance, hein, le paradigme économique qu'on utilise dans la théorie néoclassique, c'est je construis une fonction de bien-être social intergénérationnel. Bon, moi, je préfère utiliser la notion de voile d'ignorance. Hein. Imaginez qu'on réunisse au sein d'un grand parlement qui rassemblerait toutes les générations futures, mais sous le voile d'ignorance, sans dire aux gens à quelle génération présente ou future, et court futur ou futur long, à quelle génération ils appartiendront, quel serait comment ce Parlement des générations présentes et futures construirait un mécanisme pour déterminer quel est le niveau désirable de sacrifice des générations présentes. Il y a deux arguments, et donc sur le taux d'actualisation, vous l'avez compris, qui conduira à décentraliser ces niveaux de sacrifice. Il y a deux arguments qui sont centraux et qui vont conduire à une formule célèbre en économie qui s'appelle la règle de Ramsey. Il y a deux arguments qui vont déterminer le niveau de ce taux d'actualisation. Il y a la problématique de j'anticipe que la croissance économique va se poursuivre à 2% par an, comme ça s'est passé les deux derniers siècles. Et donc, si c'est le cas, dans deux siècles, la génération qui vivra à ce moment-là aura 50 fois plus de biens et services à consommer que nous. Et donc, moi, je suis très pauvre. Enfin, la génération présente est très pauvre. Et donc, sur le voie de l'ignorance, je voudrais lui donner beaucoup plus que ce qu'elle a actuellement. Et donc, je lui demande de ne pas faire trop de sacrifices. J'accepte qu'elle fasse des sacrifices que parce que les investissements que je vais mettre en œuvre grâce à cette épargne aura une rentabilité positive. Et donc, le niveau de rentabilité minimum désirable pour compenser le fait que je demande des sacrifices aux gens qui sont pauvres pour le bénéfice de gens qui sont riches. C'est comme si on demandait aux gens qui habitent sous les ponts de Lyon de contribuer pour donner un revenu à Bill Gates. Ça n'a pas de sens. Ça n'a un sens que si, en ce faisant, le mécanisme génère une création de valeur tout à fait gigantesque, qui est certainement un mauvais exemple pour le cas de Bill Gates. Je vais m'arrêter là, c'est un argument essentiel. Il y a d'autres arguments sur la précaution et sur le risque sur lesquels je n'ai pas le temps de rebondir. Juste ceci, cette idée-là, cette idée de la redistribution entre générations pauvres présentes, si on anticipe une croissance économique positive, et les générations riches futures, conduit à un taux d'actualisation socialement désirable qui devrait être le double du taux de croissance du PIB par habitant. Pourquoi deux? C'est parce qu'on pense que l'utilité marginale de la consommation, elle est divisée par 4 lorsqu'on double le niveau de consommation des ménages. C'est lié au degré de concavité de la fonction d'utilité, mais je passe les détails, j'ai vraiment pas le temps. Si vous pensez que la croissance économique va être de 2% dans les décennies à venir, mais il faut utiliser un taux d'actualisation de 4%, et les entreprises et la Caisse des dépôts et consignations devraient utiliser un taux de 4% pour déterminer si elles acceptent d'investir dans le Lyon-Turin, d'investir dans le TGV Paris-Toulouse, que j'appelle de mes voeux le plus fortement possible, etc., etc. Merci.
Merci Christian Beaulieu. Donc, nous avons la possibilité d'avoir un débat avec la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez intervenir, poser des questions, réagir? N'hésitez pas. Oui.
Oui. Quel est le rôle de l'État dans l'investissement à long terme, sachant qu'aujourd'hui, avec les contraintes que subissent l'ensemble des États pour faire face à la crise financière, ils vont avoir. Je constate dans certains ministères des restrictions dans les investissements à long terme. Donc voilà, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus.
Alors allez-y, je pense que chacun peut-être voudra dire un mot, oui, sur le rôle de l'État.
On a vu dans le transparent présenté par Jérôme tout à l'heure, la chute du taux d'épargne dans les pays, en France, c'est ça, dans les dernières années, on a une chute de taux d'épargne, donc de l'épargne, oui. Donc l'idée, c'est que si vous produisez moins de richesses, vous pouvez néanmoins maintenir un niveau de consommation qui baisse moins que votre niveau de production de richesses en épargnant moins. Et donc la logique, à nouveau, c'est cette idée de lisser la consommation dans le temps. Donc il serait normal de demander à l'État de réduire l'intensité de ses efforts en investissement et aux entreprises pendant les périodes où la production chute de façon conjoncturelle. Alors, sauf si évidemment c'est structurel. Si le niveau de production baisse de façon structurelle, il est normal aussi de réduire la consommation de façon correspondante. Mais si vous pensez que vous en êtes dans un processus de crise purement conjoncturelle, il est normal de réduire le taux d'épargne pour soutenir la consommation. Et c'est ça qu'on observe dans un certain nombre de pays.
Alain Quinet. Mais moi, je voudrais peut-être compléter. C'est que c'est vrai qu'a priori, on se dit c'est une des fonctions de l'État que de préserver l'investissement long. Et quand on regarde l'évolution des dépenses de l'État, elles sont de plus en plus, vous le soulignez dans le rapport, devenues des dépenses courantes et de moins en moins de l'investissement long. Donc l'État, finalement, dans sa fonction justement d'investisseur long, s'est désengagé pour pouvoir financer ses dépenses de fonctionnement court.
Oui, effectivement, c'est bien ça le point crucial. C'est que quand vous regardez les dépenses publiques dans un pays européen, comme la France par exemple, on est à peu près à 50%. Et quand on regarde 50% du PIB, et quand on regarde le poids de l'investissement public, au sens alors de l'investissement matériel, en bâtiment, en infrastructure, c'est 3% du PIB. Donc si vous voulez, la part de la dépense d'investissement public d'investissement public dans la dépense publique totale est tout à fait faible. Alors ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que il faut évidemment réduire le déficit public, mais ceci peut se faire, doit se faire principalement par une meilleure maîtrise de la dépense courante, et on peut, préserver la dépense d'investissement public, voire l'augmenter en parallèle, simplement parce que les ordres de grandeur sont très différents. Vous voyez qu'on peut, d'ailleurs c'est un peu le sens de ce qui est fait actuellement, dans lequel on a à la fois un emprunt public qui vise à sécuriser, un montant d'investissement, et puis en parallèle un programme de réduction des déficits. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, on peut se poser aussi la question au niveau européen, parce que il y a évidemment tout un champ d'investissement transfrontalier, avec des effets positifs d'un pays sur un autre, et on voit que l'Europe manque sans doute d'instruments de financement de ces investissements.
Je voudrais, avant de repasser la parole, vous poser la question quand même qu'on n'a pas encore vraiment soulevée, mais qui est quand même, j'imagine, dans l'esprit de beaucoup de gens, celle sur le rôle des marchés financiers. Est-ce qu'il faut condamner, est-ce que les marchés financiers, ou leurs excès, je ne sais pas, ne sont pas à l'origine de ce short-termisme, de ce court-termisme et de la crise dans laquelle on est? Je rencontre beaucoup de gens qui sont dans les entreprises, et les entreprises qui sont cotées à la bourse vous disent, attendez-moi, je dois présenter des comptes trimestriels, tous les trimestres, je dois prouver que je progresse en termes de création de valeur à mes actionnaires. Donc comment voulez-vous que, dans une optique, de marché trimestriel, voire mensuel maintenant, je puisse définir des projets d'investissement à long terme? Et donc c'est une forme de condamnation des marchés qui sont vraiment au cœur. Alors est-ce qu'il faut d'une certaine manière les cantonner, les réduire? Est-ce que... Voilà.
Sur cet aspect-là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que on peut penser que les marchés sont court-termistes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une chaîne du court-termisme qui s'organise. D'abord, il y a des ménages qui cherchent à avoir des besoins d'épargne à long terme. Donc ceux-là, on peut penser qu'ils sont long-termistes, 40 ans ou 50 ans. Ensuite, on a des intermédiaires financiers qui intermédient cette épargne et qui la dirigent vers les marchés, vers les entreprises. Ensuite, on a ces marchés financiers et on a la manière dont les actionnaires participent à la gouvernance des entreprises. Donc la question du court-termisme des marchés, c'est aussi c'est la manière dont éventuellement des actionnaires sur des marchés peuvent inciter les entreprises ensuite à avoir des comportements court-termistes. C'est un premier bout de la chaîne. Mais un autre bout de la chaîne, c'est aussi la manière dont des investisseurs qui représentent des épargnants, éventuellement des épargnants longs, influent sur les fonds, sur les gens qui font l'intermédiation et qui placent cette épargne dans les entreprises. Donc le marché peut être court-termiste, c'est possible, mais en même temps on peut aussi voir des endroits où il est un petit peu plus long-termiste. On voit par exemple qu'il y a des investisseurs institutionnels, par exemple des fonds de pension, d'autres investisseurs institutionnels, qui utilisent des incitations de long terme et qui restent plus longtemps dans les entreprises, qui font moins de rotation de leur portefeuille. Donc et ça dépend de quoi? Ça dépend fondamentalement de la caractéristique de des investisseurs qui sont derrière, des structures qui sont derrière. Un aspect qui est mis en avant dans le rapport, c'est que par exemple, on observe qu'il y a des fonds fermés et des fonds ouverts. Les fonds ouverts, ce sont des fonds dans lesquels on peut se retirer à tout moment. Donc évidemment, lorsque les fonds sont ouverts, dès que le rendement du fonds est mauvais, dès que le gérant gère mal les fonds, ou dès lors que le rendement du fonds baisse, évidemment les gens s'en vont. C'est la stratégie d'exit dont on parlait. Les investisseurs partent, d'accord? Donc ça, évidemment, ça favorise le court-termisme. Et on peut penser qu'il y a un biais court-termisme de ce point de vue-là. Mais on observe des fonds aussi qui ont des structures plus fermées, dans lesquelles on est obligé de rester un certain temps. Les fonds de private equity sont des fonds qui sont, par exemple, des fonds plus fermés. Vous engagez pendant un certain temps à être présent à l'intérieur du fonds. On remarque aussi qu'il y a des investisseurs qui, pour des raisons notamment de chartes éthiques ou de réglementation interne reste longtemps. Typiquement, certains fonds de pension américains, par exemple, ont des stratégies d'investissement qui sont des stratégies longues. Donc le fait qu'il y ait ces stratégies longues, ça réduit ce court-termisme des marchés. Les marchés ont un avantage fondamental, c'est qu'ils permettent la liquidité. Donc évidemment, ça a un coût. Ça a un coût en termes d'horizon, mais ça a aussi quelques avantages.
Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que les marchés, ils sont bon dos. Les individus sont très court-termistes. Il y a plein d'études qui sont menées à gauche, à droite. Il y en a une particulièrement célèbre qui a été publiée dans American Economic Review il y a 7 ou 8 ans, où les militaires américains, après la guerre du Golfe, il y en avait trop dans l'armée, il a fallu en dégraisser un peu, et l'État américain a offert à ces militaires de partir à la retraite. Ils avaient deux options, soit toucher un capital X, soit toucher une rente. Et ils ont tous, en tout cas une énorme majorité, a choisi le capital, alors que la rente avait une valeur économique beaucoup plus importante, même en tenant compte de l'espérance de vie, etc., etc. Donc les gens utilisent des taux d'actualisation extrêmement importants. Hein, et donc ils sont très court terme, ils sont très impatients, ils veulent consommer tout de suite. Si vous regardez l'autre dimension, il y a la dimension du taux d'actualisation, il y a la dimension de la prime de risque. Vous regardez comment les ménages sont prêts à prendre des risques. Et prendre des risques, c'est contribuer au long-termisme. Hein. Être court-termiste, les gens qui achètent du livret A, c'est pas la plus belle démonstration de court-termisme que d'acheter une obligation d'État français. Enfin,
je crois que ce qui est le point qui me paraît le plus crucial, c'est moins la question marché par marché par rapport au court-termisme, c'est plutôt l'excès d'endettement. Hein, finalement, quand on regarde des investisseurs institutionnels, ce que l'on voit, c'est que ce qui va déterminer l'horizon de cet investisseur institutionnel, c'est est-ce que oui ou non il recourt à l'endettement à son passif. Quand vous avez un investisseur institutionnel qui, je dirais, à son passif, a des fonds propres, en fait, cet investisseur va avoir mécaniquement un horizon long. Hein. Inversement, si il utilise le levier d'endettement pour doper sa rentabilité, c'est là que, à ce moment-là, va se déclencher des choix et des mécanismes de décision qui sont court-termistes, hein, parce que la pression de la dette, des cash flows, va raccourcir l'horizon de l'investisseur. Donc, je crois qu'à l'origine de la crise, c'est pas en tant que tel le fait qu'il y ait eu des marchés financiers, il y en a toujours eu, d'une certaine manière, c'est plutôt le fait qu'il y a eu une période d'accès au crédit facile qui a eu pour effet de raccourcir l'horizon des investisseurs. Alors c'est une des illustrations les plus claires, c'est évidemment au niveau de ce qu'on appelait le LBO.
Alors est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle ? Oui.
Oui, vous n'avez pas du tout parlé, mais c'est sans doute une inculture de ma part, du rôle de la fiscalité de l'État sur les choix qui peuvent être faits. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que plus la pression fiscale est forte, hein, moins on pourra épargner. Et moins la pression fiscale est forte, plus on pourra épargner et peut-être inciter fiscalement, d'ailleurs le gouvernement français l'a fait souvent, à inciter soit les Français, les ménages à investir, enfin à épargner, soit voir les entreprises, par des mesures fiscales, investir sur le long terme, à faire des investissements. Et donc, voilà, c'est le jeu global à la fois de la fiscalité, hein, non pas de la dette sociale, mais de la couverture sociale. Quel est l'impact sur les choix qui peuvent être faits entre court terme et long terme?
Alors, oui. Oui, alors si la fiscalité est utile quand on pense qu'il y a des irrationalités ou des inefficacités dans les marchés ou dans le fonctionnement de notre société. Alors ici, les économistes ont précisément mis en évidence un problème de rationalité individuelle dont on fait référence sous le vocable préférence hyperbolique ou problème de consistance dynamique des choix. C'est-à-dire que les individus subissent un problème d'addiction à la consommation. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien qu'ils doivent épargner sur le long terme, que c'est important, que ça va améliorer leur bien-être sur l'ensemble de leur cycle de vie en épargnant plus que ce qu'ils font actuellement. Mais quand ils vont dans le magasin, ils sont quand même incités à acheter l'écran plat ou la bagnole avec le 4x4 et les suppléments qui vont avec. Donc ils ont une addiction à la consommation. Et ça, c'est un exemple classique d'inconsistance dans les choix dynamiques des individus. Alors, on améliorerait le bien-être de ces individus en leur offrant les moyens de s'engager dans des projets, dans des plans d'épargne de long terme. C'est-à-dire qu'en leur disant, bah, écoutez, signez là et pendant 40 ans, vous allez vous épargner 10% de votre revenu. Et si on fait ça aux États-Unis avec des plans d'épargne retraite, on en fait le plan d'épargne retraite populaire en France est l'illustration de cela. Donc on bloque les gens, on leur offre la possibilité de s'engager eux-mêmes et curieusement, se mettre à soi-même des contraintes améliore le bien-être exactement comme la personne que vous voulez sévrer de la drogue. Il est content que vous lui il est content sur le long terme, pas sur le court terme, mais il est content sur le long terme que vous lui imposez la contrainte de plus avoir accès à la drogue. Donc offrir un système fiscal qui récompense l'épargne de long terme et qui vous donne un coup de bâton si vous épargnez sur le court terme et qu'à un moment donné vous voulez tellement le 4x4 que vous liquidez votre épargne, ça vous allez devoir payer un coût et ça vous permet de vous engager à ne pas faire cela sur le long terme. Donc il y a des arguments de création d'avantages fiscaux pour l'épargne de long terme qui sont de cette nature-là.
Juste un mot. Enfin, vous avez raison, la fiscalité, ça joue effectivement un rôle structurant au même titre que les normes comptables et prudentielles. Alors, en même temps, ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est où passe l'incitation fiscale concrètement. Est-ce que c'est bien l'épargnant final qui en bénéficie ou est-ce qu'à un certain niveau intermédiaire, au niveau de la banque, de l'assurance, de l'intervenant logement, est-ce qu'une partie de l'avantage fiscal d'abord n'est pas, je dirais, captée par l'intermédiaire? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est que lorsque vous accumulez les incitations fiscales, pour de bonnes raisons, vous aboutissez à un système qui, in fine, finit par être complexe et illisible. Et je crois que c'est à peu près à ce point-là où on était rendu aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'idée de lutter contre les niches, et notamment contre les niches de la fiscalité de l'épargne, reprend du sens.
Bien, je crois que nous arrivons au terme de notre débat. Il est l'heure, donc il y avait encore beaucoup de questions. J'aurais voulu savoir, bon, quand les fonds souverains nous mangeront tous, parce que vous savez qu'il y a des énormes fonds dans le livre, vous dites qu'il y aurait 10 000 milliards de dollars de fonds dans quelques années. Donc il y a beaucoup d'autres questions qu'on aurait pu évoquer, mais je vous demande de remercier nos participants et de bien réfléchir aux problèmes éthiques qu'il y a derrière cette problématique. Merci beaucoup. Encore.